XII, Madame Récamier à Lyon, Madame de Chevreuse, prisonniers espagnols. Madame Récamier demeurait seule, pleine de regrets, chercha d'abord à Lyon, sa ville natale, un premier abri. Elle y rencontra Madame de Chevreuse, autre bannie. Madame de Chevreuse avait été forcée par l'empereur, et ensuite par sa propre famille, d'entrer dans la nouvelle société. Vous trouveriez à peine un nom historique qui ne consentit à perdre son honneur plutôt qu'une forêt. Une fois engagée aux Tuileries, Madame de Chevreuse avait cru pouvoir dominer dans une cour sortie des camps. Cette cour cherchait, il est vrai, à s'instruire des airs de jadis, dans l'espoir de couvrir sa récente origine. Mais l'allure plébéienne était encore trop rude pour recevoir des leçons de l'impertinence aristocratique. Dans une révolution qui dure et qui a fait son dernier pas, comme par exemple à Rome, le patriciat, un siècle après la chute de la République, put se résigner à n'être plus que le Sénat des empereurs. Le passé n'avait rien à reprocher aux empereurs du présent, puisque ce passé était fini. Une égale flétrissure marquait toutes les existences. Mais en France, les nobles, qui se transformèrent en chambellans, se hâtèrent trop. L'empire nouvellement né disparut avant eux. Ils se retrouvèrent en face de la vieille monarchie ressuscitée. Madame de Chevreuse, attaquée d'une maladie de poitrine, sollicita et n'obtint pas la faveur d'achever ses derniers jours à Paris. On n'expire pas quand et où l'on veut. Napoléon, qui faisait tant de décédés, n'en aurait pas fini avec eux s'il leur eût laissé le choix de leur tombeau. Madame Récamier ne parvenait à oublier ses propres chagrins qu'en s'occupant de ceux des autres. Par la connivence charitable d'une sœur de la Miséricorde, elle visitait secrètement à Lyon les prisonniers espagnols. Quand elle leur apparaissait en robe blanche et les mains chargées de bienfaits, dans l'obscurité de leur geôle, ils la prenaient pour une vision. Un d'entre eux, brave, beau et chrétien comme le Cid, s'en allait à Dieu. Assis sur la paille, il jouait de la guitare. Son épée avait trompé sa main. Sitôt qu'il apercevait sa bienfaitrice, il lui chantait des romances de son pays, n'ayant d'autre moyen de la remercier. Sa voix affaiblie et les sons confus de l'instrument se perdaient dans le silence de la prison. Les compagnons du soldat, à demi enveloppés de leurs manteaux déchirés, leurs cheveux noirs pendant sur leurs visages hâves et bronzés, levaient des yeux fiers du sang castillan, humides de reconnaissance sur l'exilé qui leur rappelait une épouse, une sœur, une amante, et qui portait le joug de la même tyrannie. L'Espagnol mourut. Il put dire comme Zawiska, le jeune et valeureux poète polonais, « Une main inconnue fermera ma paupière, le tintement d'une cloche étrangère annoncera mon trépas, et des voix qui ne seront pas celles de ma patrie prieront pour moi. » Mathieu de Montmorency vint à Lyon visiter Madame Récamier. Elle connut alors M. Camille Jordan et M. Ballanche, digne de grossir le cortège des amitiés attachées à sa noble vie. Les circonstances politiques, mettant chaque jour de nouveaux obstacles aux correspondances, Madame Récamier attendit longtemps, dans une cruelle anxiété, des nouvelles de Madame de Staël. Elle en reçut enfin la lettre suivante. « Vaderis, vous ne pouvez vous faire une idée, cher ange de ma vie, de l'émotion que votre lettre m'a causée. C'est au fond de la Moravie, près de la forteresse d'Olmutz, que ces paroles célestes me sont arrivées. J'ai pleuré des larmes de la douleur et de la tendresse en entendant cette voix qui m'arrivait dans le désert comme l'ange d'Agar. Mon Dieu, si l'on ne m'avait pas séparé de vous, je ne serais pas ici. » Schlegel est resté à Vienne pour m'apporter de là l'argent du Nord qui m'est nécessaire. Je suis donc seul avec ma fille et mon fils dans le pays le plus triste de la terre, et où l'allemand me semble ma langue maternelle tant le polonais m'est étranger. J'ai rencontré sur le chemin de longues processions de gens du peuple qui allaient implorer Dieu dans leur misère, en espérant rien des hommes, en voulant s'adresser plus haut. Déjà l'on commence à sentir que l'on a quitté l'Europe civilisée. Quelques chants mélancoliques annoncent de temps en temps la plainte des êtres souffrants, qui, lors même qu'ils chantent, soupirent encore. J'ai bien de la peine à défendre mon imagination de l'effet qu'elle reçoit par ce pays. Enfin, il faut aller, puisque j'ai commencé. Faites que, de temps en temps, un mot de vous m'arrive, qui soit pour le passé ce que la prière est pour l'avenir, un éclair d'un autre monde. Parlez de moi tendrement à Camille Jordan. Je vous recommande Auguste. Ah, chère Juliette, que de sentiments douloureux il faut réprimer pour agir. Madame Récamier à Rome, Albano, Canova, ses lettres. Madame Récamier était trop fière pour demander son rappel. Fouché l'avait longtemps et inutilement pressé d'orner la cour de l'empereur. On peut voir les détails de ces négociations de palais dans les écrits du temps. Madame Récamier se retira en Italie. Monsieur de Montmorency l'accompagna jusqu'à Chambéry. Elle traversa le reste des Alpes, n'ayant pour compagne de voyage qu'une petite nièce âgée de 7 années, aujourd'hui Madame Lenormand. Rome était alors une ville de France, capitale du département du Tibre. Le pape gémissait prisonnier à Fontainebleau, dans le palais de François Ier. Fouché, en mission en Italie, commandait dans la cité des Césars, de même que le chef des eunuques noirs dans Athènes. Il n'y fit que passer. On installa M. de Norvin en qualité de préfet de police. Le mouvement était sur un autre point de l'Europe. Conquise sans avoir vu son second Alaric, la ville éternelle se taisait, plongée dans ses ruines. Des artistes demeuraient seuls sur cet amas de siècles. Canova reçut Mme Récamier comme une statue grecque que la France rendait au musée du Vatican. Pontife des arts, il l'inaugura aux honneurs du Capitole, dans Rome abandonnée. Canova avait une maison à Albano. Il l'offrit à Madame Récamier. Elle y passa l'été. La fenêtre à balcon de sa chambre était une de ces grandes croisées de peintre qui encadrent le paysage. Elle s'ouvrait sur les ruines de la villa de Pompée. Au loin, par-dessus des oliviers, on voyait le soleil se coucher dans la mer. Canova revenait à 7 heures. Ému de ce beau spectacle, il se plaisait à chanter, avec un accent vénitien et une voix agréable, la barcarolle « O pescator d'Alonda ». Madame Récamier l'accompagnait sur le piano. L'auteur de Psyché et de la Madeleine se délectait à cette harmonie et cherchait dans les traits de Juliette le type de la Béatrix qu'il rêvait de faire un jour. Rome avait vu jadis Raphaël et Michel-Ange couronner leurs modèles dans de poétiques orgies trop librement racontées par Cellini. Combien leur était supérieure cette petite scène décente et pure entre une jeune femme exilée et ce Canova, si simple et si doux. Plus solitaire que jamais, Rome en ce moment portait le deuil de veuve. Elle ne voyait plus passer, en la bénissant, ces paisibles souverains qui rajeunirent ces vieux jours de toutes les merveilles des arts. Le bruit du monde s'était encore une fois éloigné d'elle. Saint-Pierre était désert, comme le Colisée. Vous avez lu les lettres éloquentes qu'écrivait à son amie la femme la plus illustre de nos jours passés. Lisez les mêmes sentiments de tendresse exprimés avec la plus charmante naïveté dans la langue de Pétrarque par le premier sculpteur des temps modernes. Je ne commettrai pas le sacrilège d'essayer de les traduire. No. L'anima mia non puo tralacciare in verun modo dir ingridiare mille mille volte l'adorabile sua Giulietta. Si cara, si voi molte, volte mi fate godere di una existenza celeste. Geri dopo che siete stata da me, mi sentivo un'anima più bella assai, assai. Gersera sono partito da voi col paradiso entro di me. Oh, cosa mais arei io se potessi poi essere sempre, sempre con Giulietta. Addio, addio con tutta l'anima. Dio buono quanto, quanto mai son disgraziato. Il diavolo mi ha fatto incontrare uno per strada, il quale mi ha trattenuto circa 10 minuti che mi parvero 10 anni, cosa che fremevo come un disperato. Ecco, cara Giulietta adorabile, ecco perché sono arrivato da voi momenti dopo che eravate sortira. Pazienza, pazienza. Il male è solo per me. Pure avevo lasciato tutto, tutto per essere all'appuntamento. Come sono tristo. Lunedì notte non ho dormito nemmeno un minuto. E per ciò ieri ho fatto un viaggetto per rimettermi. Giulietta è stata sempre, sempre il piacevole soggetto dei nostri discorsi. Parlando sempre di lei il tempo se ne andava volando. Mi doleva però che quell'anima di paradiso non fosse realmente con me. Quante, quante volte mi dicevo, quale contento io avrei mai se colei fosse qui con me. Quando poi sono entrato nella camera vostra, lascio a voi il pensare cosa sentiva il mio cuore. Addio, addio creatura celeste, io vi amo con tutta l'anima. Ditemi, ove ci vediamo oggi? No, non so come mai risolvermi e partirei oggi. Né il cuore mio non vorrebbe in verun modo lasciare di vedervi questa sera. Dio mio, quanto sono mai tristo. Ora conosco davvero, davvero che se dovessi mai, che il cielo non voglia, restare del tempo senza vedervi, non so come andarebbe la cosa. Dio mio, quanto, quanto mai vi amo. Sappiate che ardo, che vengo domani sera per vedervi e dirvi a voce che vi adoro con tutta l'anima.
14. Le pêcheur d'Albano. Madame Récamier avait secouru les prisonniers espagnols à Lyon. Une autre victime de ce pouvoir qui la frappait la mit à même d'exercer à Albano sa compatissance. Un pêcheur, accusé d'intelligence avec les sujets du pape, avait été jugé et condamné à mort. Les habitants d'Albano supplièrent l'étrangère réfugiée chez eux d'intercéder pour ce malheureux. On la conduisit à la geôle, elle y vit le prisonnier. Frappée du désespoir de cet homme, elle fondit en larmes. Le malheureux la supplia de venir à son secours, d'intercéder pour lui, de le sauver. Prière d'autant plus déchirante qu'il y avait impossibilité de l'arracher au supplice. Il faisait déjà nuit et il devait être fusillé au lever du jour. Cependant, Madame Récamier, bien que persuadée de l'inutilité de ses démarches, n'hésita pas. On lui amène une voiture, elle y monte sans l'espérance qu'elle laissait aux condamnés. Elle traversa la campagne infestée de brigands, parvint à Rome et ne trouva point le directeur de la police. Elle l'attendit 2 heures au palais Fiano. Elle comptait les minutes d'une vie dont la dernière approchait. Quand M. de Norvin arriva, elle lui expliqua l'objet de son voyage. Il lui répondit que l'arrêt était prononcé et qu'il n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour le faire suspendre. Madame Récamier repartit le cœur navré. Le prisonnier avait cessé de vivre lorsqu'elle approcha d'Albano. Les habitants attendaient la Française sur le chemin. Aussitôt qu'ils la reconnurent, ils coururent à elle. Le prêtre qui avait assisté le patient lui en apportait les derniers vœux. Il remerciait la dame qu'il n'avait cessé de chercher des yeux en allant au lieu de l'exécution. Il lui recommandait de prier pour lui, car un chrétien n'a pas tout fini et n'est pas hors de crainte quand il n'est plus. Madame Récamier fut conduite par l'ecclésiastique à l'église où la suivit la foule des belles paysannes d'Albano. Le pêcheur avait été fusillé à l'heure où l'aurore se levait sur la barque maintenant sans guide qu'il avait coutume de conduire sur les mers et aux rivages qu'il avait accoutumé de parcourir. Pour dégoûter des conquérants, il faudrait savoir tous les maux qu'ils causent. Il faudrait être témoin de l'indifférence avec laquelle on leur sacrifie les plus inoffensives créatures dans un coin du globe où ils n'ont jamais mis le pied. Qu'importait au succès de Bonaparte les jours d'un pauvre faiseur de filets des États romains ? Sans doute, il n'a jamais su que ce chétif pêcheur avait existé. Il a ignoré dans le fracas de sa lutte avec les rois jusqu'au nom de sa victime plébéienne. Le monde n'aperçoit en Napoléon que des victoires. Les larmes dont les colonnes triomphales sont cimentées ne tombent point de ses yeux. Et moi je pense que de ces souffrances méprisées, de ces calamités des humbles et des petits, se forment dans les conseils de la Providence les causes secrètes qui précipitent du fait le dominateur. Quand les injustices particulières se sont accumulées de manière à l'emporter sur le poids de la fortune, le bassin descend. Il y a du sang muet et du sang qui crie. Le sang des champs de bataille est bu en silence par la terre. Le sang pacifique répandu jaillit en gémissant vers le ciel. Dieu le reçoit et le venge. Bonaparte tua le pêcheur d'Albano. Quelques mois après, il était banni chez les pêcheurs de l'île d'Elbe et il est mort parmi ceux de Sainte-Hélène. Mon souvenir vague à peine ébauché dans les pensées de Madame Récamier lui apparaissait-il au milieu des steppes du Tibre et de l'Agneau. J'avais déjà passé à travers ces solitudes mélancoliques. J'y avais laissé une tombe honorée des larmes des amis de Juliette. Lorsque la fille de M. de Montmorin mourut en 1803, Madame de Staël et M. Necker m'écrivaient des lettres de regret. On a vu ces lettres. Ainsi, je recevais à Rome, avant presque d'avoir connu Madame Récamier, des lettres datées de Copé. C'est le premier indice d'une affinité de destinée. Madame Récamier m'a dit aussi que ma lettre de 1803 à M. de Fontane lui servait de guide en 1814 et qu'elle relisait assez souvent ce passage. Guillemets. Quiconque n'a plus de lien dans la vie doit venir demeurer à Rome. Là, il trouvera pour société une terre qui nourrira ses réflexions et occupera son cœur, et des promenades qui lui disent toujours quelque chose. La pierre qu'il foulera aux pieds lui parlera. La poussière que le vent élèvera sous ses pas renfermera quelque grandeur humaine. S'il est malheureux, s'il a mêlé les cendres de ceux qu'il aima à tant de cendres illustres, avec quel charme ne passera-t-il pas du sépulcre des Scipions au dernier asile d'un ami vertueux ? S'il est chrétien, ah, comment pourrait-il alors s'arracher de cette terre qui est devenue sa patrie, de cette terre qui a vu naître un second empire, plus saint dans son berceau, plus grand dans sa puissance que celui qui l'a précédé, de cette terre où les amis que nous avons perdus, dormant avec les martyrs aux catacombes, sous l'œil du Père des fidèles, paraissent devoir se réveiller les premiers dans leur poussière et semblent plus voisins des cieux. Fin des guillemets. Mais en 1814, je n'étais pour Madame Récamier qu'un cicérone vulgaire, appartenant à tous les voyageurs. Plus heureux, en 1828, j'avais cessé de lui être étranger et nous pouvions causer ensemble des ruines romaines. Je lui écrivais la lettre suivante. Rome, jeudi 5 février. Torre Vergata est un bien de moine situé à une lieue à peu près du tombeau de Néron, sur la gauche en venant à Rome, dans l'endroit le plus beau et le plus désert. Là est une immense quantité de ruines à fleur de terre, recouvertes d'herbes et de chardons. J'y ai commencé une fouille avant-hier mardi, en cessant de vous écrire. j'étais accompagné seulement de Visconti, qui dirige la fouille, et d'Hyacinthe. Il faisait le plus beau temps du monde. Cette douzaine d'hommes armés de bêches et de pioches, qui déterraient des tombeaux et des décombres de maisons et de palais, dans une profonde solitude, offraient un spectacle digne de vous. Je faisais un seul vœu, c'était que vous fussiez là. Je consentirais volontiers à vivre avec vous sous une tente, au milieu de ces débris. J'ai mis moi-même la main à l'œuvre. J'ai découvert des fragments de marbre. Les indices sont excellents, et j'espère trouver quelque chose qui me dédommagera de l'argent perdu à cette loterie des morts. J'ai déjà un bloc de marbre grec assez considérable pour faire le buste du Poussin. Cette fouille va devenir le but de mes promenades. Je vais aller m'asseoir tous les jours au milieu de ces débris. À quel siècle, à quels hommes appartiennent-ils ? Nous remuons peut-être la poussière la plus illustre, sans le savoir. Une inscription viendra peut-être éclairer quelques faits historiques, détruire quelques erreurs, établir quelques vérités. Et puis, quand je serai parti avec mes 12 paysans demi-nus, tout retombera dans l'oubli et le silence. Vous représentez-vous toutes les passions, tous les intérêts qui s'agitaient autrefois dans ces lieux abandonnés? Il y avait des esclaves et des maîtres, des heureux et des malheureux, de belles personnes qu'on aimait, des ambitieux qui voulaient être ministres. Il y reste quelques oiseaux et moi, encore pour un temps fort court. Nous nous envolerons bientôt. Dites-moi, croyez-vous que cela vaille la peine d'être membre du conseil d'un petit roi des Gaules, moi, barbare de l'Armorique, voyageur chez des sauvages et un monde inconnu des Romains, et ambassadeur auprès d'un de ces prêtres qu'on jetait au lion? Quand j'appelai Léonidus à Lacédémone, il ne répondit pas. Le bruit de mes pas à Torre Vergala n'aura réveillé personne, et quand je serai à mon tour dans mon tombeau, je n'entendrai pas même le son de votre voix. Il faut donc que je me hâte de me rapprocher de vous et de mettre fin à toutes ces chimères de la vie des hommes. Il n'y a de bon que la retraite et de vrai qu'un attachement comme le vôtre. XV. Madame Récamier à Naples. À Naples, où Madame Récamier se rendit en automne, cessèrent les occupations de la solitude. Guillemet. La première pensée qui vint la saisir en arrivant fut, dit M. Ballanche, d'aller chercher les traces de Madame de Staël. Elle se donne à peine le temps de descendre dans une auberge. Elle fait approcher une barque et demande à être conduite au cap Misaine. Elle resta plusieurs heures à contempler ce site admirable, tout animé pour elle des accents de Corinne. Maintenant, loin du beau ciel de l'Italie, c'est dans les brumes du Nord que Madame de Staël attend l'issue de la lutte redoutable qui va décider du sort de l'Europe. Madame Récamier était ainsi ramenée à la douloureuse impression du présent. Elle aurait voulu ne trouver à Naples que son ciel merveilleux, son golfe enchanté, ses campagnes poétiques, et jouir au moins de l'exil. Fin des guillemets. Mais à peine fut-elle rentrée à l'auberge que les ministres du roi Joachim accoururent. Murat, oubliant la main qui changea sa cravache en sceptre, était prêt à se joindre à la coalition. Bonaparte avait planté son épée au milieu de l'Europe, comme les Gaulois plantaient leur glaive au milieu du Malus. Autour de l'épée de Napoléon s'étaient rangés en cercle des royaumes qu'il distribuait à sa famille. Caroline avait reçu celui de Naples. Madame Murat n'était pas un camé antique aussi élégant que la princesse Borghèse, mais elle avait plus de physionomie et plus d'esprit que sa sœur. À la fermeté de son caractère, on reconnaissait le sang de Napoléon. Si le diadème n'eût pas été pour elle l'ornement de la tête d'une femme, il eût encore été la marque du pouvoir d'une reine. Caroline reçut Madame Récamier avec un empressement d'autant plus affectueux que l'oppression de la tyrannie se faisait sentir jusqu'à Portici. Cependant, la ville, qui possède le tombeau de Virgile et le berceau du Tasse, cette ville où vécurent Horace et Tite-Live, Boccace et Saint-Nazaire, où naquirent Durant et Cimarosa, avait été embellie par son nouveau maître. L'ordre s'était rétabli, les Lazzaroni ne jouaient plus à la boule avec des têtes pour amuser l'amiral Nelson et Lady Hamilton. Les fouilles de Pompeia s'étaient étendues. Un chemin serpentait sur le Posolipe, dans les flancs duquel j'avais passé en 1803 pour aller m'enquérir à Literne de la retraite de Scipion. Ces royautés nouvelles d'une dynastie militaire avaient fait renaître la vie dans des pays où se manifestait auparavant la moribonde langueur d'une vieille race. Robert Guiscard, Guillaume Bras de Fer, Roger et Tancrède semblaient être revenus, moins la chevalerie. Madame Récamier était à Naples au mois de février 1814. Où étais-je? Dans ma vallée au Loup, commençant l'histoire de ma vie. Je m'occupais des jeux de mon enfance, au bruit des pas du soldat étranger. La femme dont le nom devait clore ses mémoires errait sur les marines de Bailly. N'avais-je pas un pressentiment du bien qui m'arriverait un jour de cette terre, alors que je peignais la séduction parthénopéenne dans les martyrs. Guillemets. Chaque matin, aussitôt que l'aurore commençait à paraître, je me rendais sous un portique. Le soleil se levait devant moi. Il illuminait de ses feux les plus doux la chaîne des montagnes de Salerne, le bleu de la mer parsemé des voiles blanches des pêcheurs, les îles de Capré, d'Oenaria et de Procita, le cap Misène et Baïs, avec tous ses enchantements. Des fleurs et des fruits, humides de rosée, sont moins suaves et moins frais que le paysage de Naples, sortant des ombres de la nuit. J'étais toujours surpris, en arrivant au portique, de me trouver au bord de la mer, car les vagues, dans cet endroit, faisaient à peine entendre le léger murmure d'une fontaine. En extase devant ce tableau, je m'appuyais contre une colonne, et sans pensée, sans désir, sans projet, je restais des heures entières à respirer un air délicieux. Le charme était si profond qu'il me semblait que cet air divin transformait ma propre substance, et qu'avec un plaisir indicible, je m'élevais vers le firmament comme un pur esprit. Attendre ou chercher la beauté, la voir s'avancer dans une nacelle et nous sourire du milieu des flots, voguer avec elle sur la mer dont nous semions la surface de fleurs, suivre l'enchanteresse au fond de ses bois de myrte et dans les champs heureux où Virgile plaça l'Élysée. Telle était l'occupation de nos jours. Peut-être est-il des climats dangereux à la vertu, par leur extrême volupté. Et n'est-ce pas ce que voulut enseigner une fable ingénieuse, en racontant que Parthénope fut bâtie sur le tombeau d'une sirène? L'éclat velouté de la campagne, la tiède température de l'air, les contours arrondis des montagnes, les molles inflexions des fleuves et des vallées sont à Naples autant de séductions pour les sens que tout repose. Pour éviter les ardeurs du midi, nous nous retirions dans la partie du palais bâtie sous la mer. Couchés sur des lits d'ivoire, nous entendions murmurer les vagues au-dessus de nos têtes. Si quelque orage nous surprenait au fond de ces retraites, les esclaves allumaient des lampes pleines du nard le plus précieux de l'Arabie. Alors entraient de jeunes napolitaines qui portaient des roses de Paestum dans des vases de Nola. Tandis que les flots mugissaient au dehors, elles chantaient en formant devant nous des danses tranquilles qui me rappelaient les mœurs de la Grèce. Ainsi se réalisaient pour nous les fictions des poètes. On eût cru voir les jeux des Néréides dans la grotte de Neptune. Fin des guillemets. Lecteur, si tu t'impatientes de ces citations, de ces récits, songe d'abord que tu n'as peut-être pas lu mes ouvrages, et qu'ensuite je ne t'entends plus. Je dors dans la terre que tu foules. Si tu m'en veux, frappe cette terre du pied, tu n'insulteras que mes os. Songe de plus que mes écrits font partie essentielle de cette existence dont je te déploie les feuilles. Ah! Que mes tableaux napolitains n'avaient-ils un fond de vérité? Que la fille du Rhône n'était-elle la femme réelle de mes délices imaginaires? Mais non, si j'étais Augustin, Jérôme, Eudore, je l'étais seul. Mes jours devancèrent les jours de l'ami de Corinne, en Italie. Heureux, s'il lui avait toujours appartenu. Heureux, si j'avais pu étendre ma vie entière sous ses pas, comme un tapis de fleurs. Mais ma vie est rude, et ses aspérités blessent. Puissent du moins, mes derniers moments, être doux à celle qui les consola. Puissent mes heures expirantes refléter l'attendrissement et le charme dont elle les a remplis. Sur celle qui fut aimée de tous et dont personne n'eut jamais à se plaindre. 16. Le duc de Rohan-Chabot. Madame Récamier rencontra à Naples le comte de Neipperg et le duc de Rohan-Chabot. L'un devait monter au nid de l'aigle, l'autre revêtir la pourpre. On a dit de celui-ci qu'il avait été voué au rouge, ayant porté l'habit de chambellan, l'uniforme de chevau léger et la robe de cardinal. Le duc de Rohan était fort joli. Il roucoulait la romance, lavait de petites aquarelles et se distinguait par une étude coquette de toilette. Quand il fut abbé, sa pieuse chevelure éprouvée au fer avait une élégance de martyr. Il prêchait à la brune dans des oratoires devant des dévotes, ayant soin, à l'aide de deux ou trois bougies artistement placées, d'éclairer en demi-teinte, comme un tableau, son visage pâle. Il chantait la préface à faire pleurer. Il n'allait point, comme saint Paul, avec une parole rude, mais avec une parole emmiellée, et cet abaissement adorable qui consacrait un Chabot à Dieu, tout de même qu'un simple desservant de paroisse. Guérin, faisant le portrait de l'abbé Duc, lui adressait un jour des compliments sur sa figure. L'humble confesseur lui répondit « Si vous m'aviez vu priant !» On ne s'explique pas de prime abord comment des hommes que leur nom rendait bêtes à force d'orgueil s'étaient mis au gage d'un parvenu. En y regardant de près, on trouve que cette aptitude à entrer en condition découlait naturellement de leurs mœurs. Façonnés à la domesticité, point n'avait souci du changement de livrée, pourvu que le maître fût logé au château à la même enseigne. Le mépris de Bonaparte leur rendait justice. Ce grand soldat, abandonné des siens, disait avec reconnaissance à Madame de Montmorency « Au fond, il n'y a que vous autres qui sachiez servir. » La religion et la mort ont passé l'éponge sur quelques faiblesses, après tout, bien pardonnables, du cardinal de Rohan. Prêtre chrétien, il a consommé à Besançon son sacrifice, secourant le malheureux, nourrissant le pauvre, vêtissant l'orphelin et usant en bonnes œuvres sa vie, dont une santé déplorable abrégeait naturellement le cours. 17. Murat, ses lettres. Murat, roi de Naples, né le 25 mars 1771 à la Bastide, près de Cahors, fut envoyé à Toulouse pour y faire ses études. Il se dégoûta des lettres, s'enrôla dans les chasseurs des Ardennes, déserta et se réfugia à Paris. Admis dans la garde constitutionnelle de Louis XVI, il obtint, après le licenciement de cette garde, une sous-lieutenance dans le 11e régiment de chasseurs à cheval. À la mort de Robespierre, il fut destitué comme terroriste. Même chose arriva à Bonaparte, et les deux soldats demeurèrent sans ressources. Murat rentra en grâce aux 13 Vendémiaires et devint aide-de-camp de Napoléon. Il fit sous lui les premières campagnes d'Italie, prit la Valteline et la réunit à la République cisalpine. Il eut part à l'expédition d'Égypte, renouvela au Mont Tabor les faits d'armes de Richard Cœur de Lion et se signala à la bataille d'Aboukir. Revenu en France avec son maître, il fut chargé de jeter à la porte le conseil des 500. Bonaparte lui donna en mariage sa sœur Caroline. Murat commandait la cavalerie à la bataille de Marengo. Gouverneur de Paris à la mort du duc d'Enghien, il gémit tout bas d'un assassinat qu'il n'eut pas le courage de blâmer tout haut. Beau-frère de Napoléon et maréchal de l'Empire, Murat entra le premier à Vienne en 1806. Il contribua aux victoires d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau et de Friedland, devint duc de Berg et envahit l'Espagne en 1808. Napoléon le rappela et lui donna la couronne de Naples. Proclamé roi des deux Siciles, le 1er août 1808, il plut aux Napolitains par son faste, son costume théâtral, ses cavalcades et ses fêtes. Appelé en qualité de grand vassal de l'Empire à l'invasion de la Russie, il reparut dans tous les combats et se trouva chargé du commandement de la retraite de Smolensk à Vilna. Après avoir manifesté son mécontentement, il quitta l'armée à l'exemple de Bonaparte et vint se réchauffer au soleil de Naples comme son capitaine au foyer des Tuileries. Ses hommes de triomphe ne pouvaient s'accoutumer au revers. Alors commencèrent ses liaisons avec l'Autriche. Il reparut encore au camp de l'Allemagne en 1813, retourna à Naples après la perte de la bataille de Leipzig et renoua ses négociations austro-britanniques. Avant d'entrer dans une alliance complète, Murat écrivit à Napoléon une lettre que j'ai entendu lire à M. de Mausbourg. Il disait à son beau-frère dans cette lettre qu'il avait retrouvé la péninsule fort agitée, que les Italiens réclamaient leur indépendance nationale, que si elle ne leur était pas rendue, il était à craindre qu'ils se joignissent à la coalition de l'Europe et augmentassent ainsi les dangers de la France. Il suppliait Napoléon de faire la paix, seul moyen de se conserver un empire si puissant et si beau, que si Bonaparte refusait de l'écouter, lui, Murat, abandonné à l'extrémité de l'Italie, se verrait forcé de quitter son royaume ou d'embrasser les intérêts de la liberté italienne. Cette lettre, très raisonnable, resta plusieurs mois sans réponse. Napoléon n'a donc pu reprocher justement à Murat de l'avoir trahi. Murat, obligé de choisir promptement, signa le 11 janvier 1814 avec la cour de Vienne un traité. Il s'obligeait à fournir un corps de 30 000 hommes aux alliés. Pour prix de cette défection, on lui garantissait son royaume napolitain et son droit de conquête sur les marches pontificales. Madame Murat avait révélé cette importante transaction à Madame Récamier. Au moment de se déclarer ouvertement, Murat, fort ému, rencontra Madame Récamier chez Caroline et lui demanda ce qu'elle pensait du parti qu'il avait à prendre. Il la priait de bien peser les intérêts du peuple dont il était devenu le souverain. La noble exilée n'hésita pas. « Vous êtes français, c'est aux Français que vous devez rester fidèle. » La figure de Murat se décomposa. Il répartit. « Je suis donc un traître ? Qu'y faire ? Il est trop tard. » Il ouvrit avec violence une fenêtre et montra de la main la flotte anglaise, entrant à pleine voile dans le port. Le Vésuve venait d'éclater et jetait des flammes. 2 heures après, Murat était à cheval à la tête de ses gardes. La foule l'environnait en criant « Vive le roi Joachim !» Il avait tout oublié. Il paraissait ivre de joie. Le lendemain, grand spectacle au théâtre Saint-Charles. Le roi et la reine furent reçus avec ces acclamations frénétiques inconnues des peuples en deçà des Alpes. On applaudit aussi l'envoyé de François II. Dans la loge du ministre de Napoléon, il n'y avait personne. Murat en parut troublé, comme s'il eût vu, au fond de cette loge, le spectre de la France. L'armée de Murat, mise en mouvement le 16 février 1814, force le prince Eugène à se replier sur la Dige. Napoléon, ayant d'abord obtenu des succès inespérés en Champagne, écrivait à sa sœur Caroline des lettres surprises par les alliés et communiquées au Parlement d'Angleterre par Lord Castlereagh. « Votre mari est très brave, lui disait-il, sur le champ de bataille. Mais il est plus faible qu'une femme ou qu'un moine quand il ne voit pas l'ennemi. Il n'a aucun courage moral. Il a eu peur et il n'a pas hasardé de perdre en un instant ce qu'il ne peut tenir que par moi et avec moi. » Dans une autre lettre adressée à Murat lui-même, Napoléon disait à son beau-frère « Je suppose que vous n'êtes pas de ceux qui pensent que le lion est mort. Si vous faisiez ce calcul, il serait faux.
vous m'avez fait tout le mal que vous pouviez depuis votre départ de Vilna. Le titre de roi vous a tourné la tête. Si vous désirez le conserver, conduisez-vous bien. »
Murat ne poursuivit pas le vice-roi sur l'Adige. Il hésitait entre les alliés et les Français, selon les chances que Bonaparte semblait gagner ou perdre. Dans les champs de Brienne, où Napoléon fut élevé par l'ancienne monarchie, il donnait en l'honneur de celle-ci le dernier et le plus admirable de ses sanglants tournois. Favorisé des Carbonari, Joachim, tantôt, veut se déclarer libérateur de l'Italie, tantôt espère la partager entre lui et Bonaparte, redevenu vainqueur. Un matin, le courrier apporte à Naples la nouvelle de l'entrée des Russes à Paris. Madame Murat était encore couchée, Madame Récamier, assise à son chevet, causait avec elle. On déposa sur le lit un énorme tas de lettres et de journaux. Parmi ceux-ci se trouvait mon écrit, de Bonaparte et des Bourbons. La reine s'écria « Ah, voilà un ouvrage de Monsieur de Chateaubriand, nous le lirons ensemble !» Et elle continua à décacheter ses lettres. Madame Récamier prit la brochure, et après y avoir jeté les yeux au hasard, elle la remit sur le lit et dit à la reine « Madame, vous la lirez seule. » Napoléon fut relégué à l'île d'Elbe. L'alliance, avec une rare habileté, l'avait placé sur les côtes de l'Italie. Murat apprit qu'on cherchait au congrès de Vienne à le dépouiller des États, qu'il avait néanmoins acheté si cher. Il s'entendit secrètement alors avec son beau-frère, devenu son voisin. On est toujours étonné que les Napoléons aient des parents. Qui sait le nom d'Aridée, frère d'Alexandre? Pendant le cours de l'année 1814, le roi et la reine de Naples donnèrent une fête à Pompeia. On exécuta une fouille au son de la musique. Les ruines que faisaient déterrer Caroline et Joachim ne les instruisaient pas de leurs propres ruines. Sur les derniers bords de la prospérité, on n'entend que les derniers concerts du songe qui passe. Lors de la paix de Paris, Murat faisait partie de l'Alliance. Le Milanais ayant été rendu à l'Autriche, les Napolitains se retirèrent dans les légations romaines. Quand Bonaparte débarqué à Cannes fut entré à Lyon, Murat, perplexe, ayant changé d'intérêt, sortit des légations et marcha avec 40 000 hommes vers la Haute-Italie, pour y faire une diversion en faveur de Bonaparte. Il refusa à Parme les conditions que les Autrichiens effrayés lui offraient encore. Pour chacun de nous, il est un moment critique. Bien ou mal choisi, il décide de notre avenir. Le baron de Firmont repousse les troupes de Murat, prend l'offensive et les mène battant jusqu'à Macerata. Les Napolitains se débandent. Leur général roi rentre dans Naples, accompagné de 4 lanciers. Il se présente à sa femme et lui dit « Madame, je n'ai pu mourir. » Le lendemain, un bateau le conduit vers l'île d'Ischia. Il rejoint en mer une pinque chargée de quelques officiers de son état-major et fait voile avec eux pour la France. Madame Murat, demeurée seule, montra une présence d'esprit admirable. Les Autrichiens étaient au moment de paraître. Dans le passage d'une autorité à l'autre, un intervalle d'anarchie pouvait être rempli de désordre. La régente ne précipite point sa retraite. Elle laisse le soldat allemand occuper la ville et fait, pendant la nuit, éclairer ses galeries. Le peuple, apercevant du dehors la lumière, pensant que la reine est encore là, reste tranquille. Cependant, Caroline sort par un escalier secret et s'embarque. Assise à la poupe du vaisseau, elle voyait sur la rive resplendir illuminé le palais désert dont elle s'éloignait. Image du rêve brillant qu'elle avait eu pendant son sommeil dans la région des fées. Souvent, montée au faîte de ce palais avec Madame Récamier, elle lui avait dit en promenant au loin ses regards ravis « Je suis reine de Naples ». Caroline rencontra la frégate qui ramenait Ferdinand. Le vaisseau de la reine fugitive fit le salut. Le vaisseau du roi rappelé ne le rendit pas. La prospérité ne reconnaît pas l'adversité, sa sœur.
Ainsi les illusions évanouies pour les uns recommencent pour les autres. Ainsi se croisent dans les vents et sur les flots les inconstantes destinées humaines, riantes ou funestes, le même abîme les porte et les engloutit. Murat accomplissait ailleurs sa course. Le 25 mai 1815, à 10 heures du soir, il aborda au golfe Juan, où son beau-frère avait abordé. La fortune faisait jouer à Joachim la parodie de Napoléon. Celui-ci ne croyait pas à la force du malheur et au secours qu'il apporte aux grandes âmes. Il défendit au roi détrôné l'accès de Paris. Il mit au lazaret cet homme attaqué de la peste des vaincus. Il le relégua dans une maison de campagne appelée Plaisance, près de Toulon. Il eût mieux fait de moins redouter une contagion dont il avait été lui-même atteint. Qui sait ce qu'un soldat comme Murat aurait pu changer à la bataille de Waterloo? Le roi de Naples, dans son chagrin, écrivait à Fouché, le 19 juillet 1815. « Je répondrai à ceux qui m'accusent d'avoir commencé les hostilités trop tôt, qu'elles le furent sur la demande formelle de l'empereur, et que, depuis 3 mois, il n'a cessé de me rassurer sur ses sentiments, en accréditant des ministres près de moi, en m'écrivant qu'il comptait sur moi et qu'il ne m'abandonnerait jamais. Ce n'est que lorsqu'on a vu que je venais de perdre avec le trône les moyens de continuer la puissante diversion qui durait depuis 3 mois, qu'on veut égarer l'opinion publique, en insinuant que j'ai agi pour mon propre compte et à l'insu de l'empereur. Il y eut dans le monde une femme généreuse et belle. Lorsqu'elle arriva à Paris, Madame Récamier la reçut et ne l'abandonna point dans des temps de malheur. Cette femme a laissé en mourant une marque de souvenir à Madame Récamier. Celle-ci, parmi les papiers dont elle a eu connaissance, a trouvé 2 lettres de Murat du mois de juin 1815. Elles sont utiles à l'histoire. Guillemets. 6 juin 1815. J'ai perdu pour la France la plus belle existence. J'ai combattu pour l'empereur. C'est pour sa cause que mes enfants et ma femme sont en captivité. La patrie est en danger, j'offre mes services. On en ajourne l'acceptation. Je ne sais si je suis libre ou prisonnier. Je dois être enveloppé dans la ruine de l'empereur s'il succombe, et on m'ôte les moyens de le servir et de servir ma propre cause. J'en demande les raisons. On répond obscurément et je ne puis me faire juge de ma position. Tantôt, je ne puis me rendre à Paris où ma présence ferait du tort à l'empereur. Je ne saurais aller à l'armée où ma présence réveillerait trop l'attention du soldat. Que faire? Attendre? Voilà ce qu'on répond. On me dit d'un autre côté que l'opinion de la France ne m'est pas favorable, qu'on ne me pardonne pas d'avoir abandonné l'empereur l'année dernière, tandis que des lettres de Paris disaient, quand je combattais tout récemment pour la France, « Tout le monde ici est enchanté du roi. » Mais l'empereur m'écrivait, « Je compte sur vous, comptez sur moi, je ne vous abandonnerai jamais. » Le roi Joseph m'écrivait, « L'empereur m'ordonne de vous écrire, de vous porter rapidement sur les Alpes. » Et quand en arrivant je lui témoigne des sentiments généreux et que je lui offre de combattre pour la France, je suis envoyé dans les Alpes, et pas un mot de consolation n'est adressé à celui qui n'eut jamais de tort envers lui, que celui d'avoir trop compté sur des sentiments généreux, sentiments qu'il n'eut jamais pour moi. Mon ami, je viens vous prier de me faire connaître l'opinion de la France et de l'armée à mon égard. Il faut savoir tout supporter, et mon courage me rendra supérieur à tous les malheurs. Tout est perdu hors l'honneur. J'ai perdu le trône, mais j'ai conservé toute ma gloire. Je suis abandonné par mes soldats qui furent victorieux dans tous les combats, mais je ne fus jamais vaincu. La désertion de 20 000 hommes me mit à la merci de mes ennemis. Une barque de pêcheurs me sauva de la captivité et un navire marchand me jeta en 3 jours sur les côtes de France. Sous Toulon, le 18 juin 1815. Je viens de recevoir votre lettre. il m'est impossible de vous dépeindre les différentes sensations qu'elle m'a fait éprouver. J'ai pu un instant oublier mes malheurs. Je ne suis occupé que de mon ami, dont l'âme noble et généreuse vient me consoler et me montrer sa douleur. Rassurez-vous, tout est perdu. Mais l'honneur reste et ma gloire survivra à tous mes malheurs et mon courage saura me rendre supérieur à toutes les rigueurs de ma destinée. N'ayez rien à craindre de ce côté. J'ai perdu trône et famille sans m'émouvoir. Mais l'ingratitude m'a révolté. J'ai tout perdu pour la France, pour son empereur, par son ordre, et aujourd'hui il me fait un crime de l'avoir fait. Il me refuse la permission de combattre et de me venger, et je ne suis pas libre sur le choix de ma retraite. Concevez-vous tout mon malheur? Que faire? Quel parti prendre? Je suis français et père. Comme français, je dois servir ma patrie. Comme père, je dois aller partager le sort de mes enfants. L'honneur m'impose le devoir de combattre, et la nature me dit que je dois être à mes enfants. À qui obéir? Ne puis-je satisfaire à tous deux? Me sera-t-il permis d'écouter l'un ou l'autre? Déjà l'empereur me refuse des armées, et l'Autriche accordera-t-elle les moyens d'aller rejoindre mes enfants? Les lui demanderai-je, moi qui n'ai jamais voulu traiter avec ses ministres. Voilà ma situation. Donnez-moi des conseils. J'attendrai votre réponse, celle du duc d'Otrante et de Lucien, avant de prendre une détermination. Consultez bien l'opinion sur ce que l'on croit qu'il me convient de faire. Quand je ne suis pas libre sur le choix de ma retraite, quand on revient sur le passé et quand on me fait un crime d'avoir par ordre perdu mon trône, et quand ma famille gémit dans la captivité, conseillez-moi, écoutez la voix de l'honneur, celle de la nature, et en juge impartial, ayez le courage de m'écrire ce qu'il faut que je fasse. J'attendrai votre réponse sur la route de Marseille à Lyon. Fin des guillemets. Laissant de côté les vanités personnelles et ces illusions qui sortent du trône, même d'un trône où l'on ne s'est assis qu'un moment, ces lettres nous apprennent quelle idée Murat se faisait de son beau-frère. Bonaparte perd une seconde fois l'Empire. Murat vagabonde sans asile sur ces mêmes plages qui ont vu errer la duchesse de Berry. Des contrebandiers consentent le 22 août 1815 à le passer, lui et trois autres, à l'île de Corse. Une tempête l'accueille. La balancelle, Patache, qui faisait le service entre Bastia et Toulon, le reçoit à son bord. À peine a-t-il quitté son embarcation qu'elle s'entrouve. Surgit à Bastia le 25 août, il court se cacher au village de Viscovato chez le vieux Colonna Ceccaldi. 200 officiers le rejoignent avec le général Franceschetti. Il marche sur Ajaccio. La ville maternelle de Bonaparte, seule, tenait encore pour son fils. De tout son empire, Napoléon ne possédait plus que son berceau. La garnison de la citadelle salue Murat et le veut proclamer roi de Corse. Il s'y refuse. Il ne trouve d'égal à sa grandeur que le sceptre des deux Siciles. Son aide de camp, Macirone, lui apporte de Paris la décision de l'Autriche, en vertu de laquelle il doit quitter le titre de roi et se retirer, à volonté, dans la Bohême ou la Moldavie. « Il est trop tard, » répondit Joachim. « Mon cher Macirone, le dé en est jeté. » Le 28 septembre, Murat cingle vers l'Italie. 7 bâtiments étaient chargés de ses 250 serviteurs. Il avait dédaigné de tenir à royaume l'étroite patrie de l'homme immense. Plein d'espoir, séduit par l'exemple d'une fortune au-dessus de la sienne, il partait de cette île d'où Napoléon était sorti pour prendre possession du monde. Ce ne sont pas les mêmes lieux, ce sont les génies semblables qui produisent les mêmes destinées. Une tempête dispersa la flottille. Murat fut jeté le 8 octobre dans le golfe de Sainte-Euphémie, presque au moment où Bonaparte abordait le rocher de Sainte-Hélène. De ces 7 prames, il ne lui en restait plus que 2, y compris la sienne. Débarqué avec une trentaine d'hommes, il essaye de soulever les populations de la côte. Les habitants font feu sur sa troupe. Les deux prames gagnent le large. Murat était trahi. Il court à un bateau échoué. Il essaye de le mettre à flot. Le bateau reste immobile. Entouré et pris, Murat, outragé du même peuple qui se tuait naguère à crier « Vive le roi Joachim !» est conduit au château de Pizzo. On saisit sur lui et ses compagnons des proclamations insensées. Elles montraient de quels rêves les hommes se bercent jusqu'à leur dernier moment. Tranquille, dans sa prison, Murat disait « Je ne garderai que mon royaume de Naples. Mon cousin Ferdinand conservera la seconde Sicile. » Et dans ce moment, une commission militaire condamnait Murat à mort. Lorsqu'il apprit son arrêt, sa fermeté l'abandonna quelques instants. Il versa des larmes, il s'écria « Je suis Joachim, roi des deux Siciles !» Il oubliait que Louis XVI avait été roi de France, le duc d'Enghien, petit-fils du grand Condé, et Napoléon, arbitre de l'Europe. La mort compte pour rien ce que nous fûmes. Un prêtre, et toujours un prêtre, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, vint rendre à un cœur intrépide sa force défaillie. Le 13 octobre, Murat, après avoir écrit à sa femme, est conduit dans une salle du château de Pizzo, renouvelant dans sa personne romanesque les aventures brillantes ou tragiques du Moyen-Âge. 12 soldats, qui peut-être avaient servi sous lui, l'attendaient disposés sur deux rangs. Murat voit charger les armes, refuse de se laisser bander les yeux, choisit lui-même, en capitaine expérimenté, le poste où les balles le peuvent mieux atteindre. Couché en joue, au moment du feu, il dit « Soldats, sauvez le visage, visez au cœur !» Il tombe tenant dans ses mains les portraits de sa femme et de ses enfants. Ces portraits ornaient auparavant la garde de son épée. Ce n'était qu'une affaire de plus que le brave venait de vider avec la vie. Les genres de mort différents de Napoléon et de Murat conservent les caractères de leur histoire. Murat, si fastueux, fut enterré sans pompe à Pizzo, dans une de ces églises chrétiennes dont le saint charitable reçoit miséricordieusement toutes les cendres.